pratiquement, c'est le dernier cours de théologie naturelle. Alors, quand j'ai dit que j'allais continuer Descartes, on a poussé des cris en disant « c'est un petit peu pas très intéressant ». C'est vrai que c'est pas très intéressant, je suis d'accord, mais d'autre part, c'est quand même très important de comprendre ce tournant au point de vue de la théologie naturelle. Et j'allais dire que Descartes, si on veut le comprendre, on doit le comprendre par ce souci des voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Beaucoup plus que par tout le reste. Vous voyez, au fond, on a laïcisé la pensée de Descartes qui a laïcisé les théologiens. Et on a regardé le problème de Descartes avant tout du côté de la connaissance. C'est très vrai que le cogito joue un rôle très important chez Descartes, mais Descartes dit lui-même que toute la philosophie est faite pour le problème de l'âme immortelle et de Dieu. Donc c'est quand même, je crois, ce qu'il y a de principal à regarder dans Descartes. Vous voyez, si j'avais enseigné Descartes, je le prendrais de ce côté-là. Parce que je crois que c'est quand même cela qui fait comprendre la position de Descartes. Descartes va être à l'origine de tout ce que représente l'ontologisme. Il ne faut pas l'oublier. Saint Anselme, nous avons vu combien Saint Anselme est important pour remettre Saint Descartes, n'est-ce pas ? Saint Anselme, doivent s'amuser dans le ciel. Hein. Et Descartes, c'est pas tout à fait le même. Hein. Saint Anselme est un moine et donc un saint. N'est-ce pas? Il faut pas l'oublier. Et un moine et un saint qui fait de la théologie, qui fait une réflexion sur ce que représente le problème de Dieu. Il réfléchit sur le problème de Dieu. Mais il réfléchit sur le problème de Dieu comme un saint. Qui met son intelligence au service de sa foi. C'est un saint intelligent, c'est-à-dire quelqu'un qui veut mettre son intelligence au niveau de sa foi. Il le fait à sa manière, on peut le critiquer, parce que là il est critiquable, il n'est pas saint en raison de ses raisonnements. Il est saint en raison de son amour pour Dieu et du prochain. Donc c'est autre chose. Il met au service du prochain sa raison. C'est quand même très beau de voir ça. Mettre toute son intelligence au service du petit moine qui est tenté. Toute son intelligence là-dessus. Ça fait partie de sa sainteté. N'est-ce pas ? Mais évidemment, son raisonnement, on peut le suivre ou pas le suivre, ça fait partie de ce qu'on peut discuter. Saint Anselme prépare Saint Thomas. Évidemment, pour nous, le gros morceau, c'est Saint Thomas. Et nous l'avons vu longuement, exprès. Et nous avons vu comment Saint Thomas aboutit aux cinq voies. Et là, il y a la position de la somme théologique de Saint Thomas, qui est très importante, parce qu'elle montre un effort de critique théologique qui est capital. Mais au fond, le souci de Saint Thomas est donc un souci apologétique au très très grand sens, c'est-à-dire un souci de critique pour montrer comment l'intelligence est capable de toucher l'essai de Dieu, l'exister de Dieu. Et saint Thomas là représente tout un aspect traditionnel, beaucoup plus traditionnel que saint Anselme. Saint Anselme serait beaucoup plus révolutionnaire, si j'ose dire, hein, que Saint Thomas. Saint Thomas est beaucoup plus classique. Du reste, pour ça, je crois qu'on le rejette aujourd'hui, parce qu'il représente une grande tradition. Tandis que Saint Anselme est toujours accepté à la Sorbonne. Hein. Toujours, ça, c'est évident. On aime bien Saint Anselme, parce qu'au fond, il est frondeur, il est celui qui, si vous voulez, donne une position qui, de fait, n'est pas la position de l'Église. Et il est celui qui va être source lointaine de Descartes et de l'ontologisme. Oui. Alors, c'est pour ça que la position de Descartes est si importante, parce qu'elle oriente le problème de les voies d'accès vis-à-vis de Dieu en les modernisant. Alors, il faut au moins retenir cela, n'est-ce pas ? Je ne vous demande pas de retenir parfaitement toutes les argumentations de Descartes, sauf si vous voulez travailler un peu Descartes. Et ça vaut la peine de travailler Descartes pour comprendre la pensée moderne. Pour ne pas l'oublier, je crois que c'est très difficile de comprendre la pensée moderne sans avoir un peu mis son nez dans Descartes. C'est très difficile. Descartes reste quand même Descartes-Kant. C'est quand même très important. Descartes-Kant-Hegel. Hein. Il y a quelques grands qu'on doit connaître, indispensablement. Si on ne les connaît pas, je crains qu'on ne comprenne rien du tout à ce qui se passe après. Alors il faut au moins les avoir vus, il faut au moins les avoir connus, n'est-ce pas ? Alors vous voyez, j'aurais voulu après Descartes regarder la position de Kant et la position de Hegel. Bon, pas le temps de tout voir. Hein. Je me suis attardé peut-être un peu trop à saint Thomas, mais comme saint Thomas reste pour nous un maître, c'est important de le voir. Et que la position de saint Thomas reste pour nous une position plus immédiatement importante pour nous que la position des autres. Mais comprenez bien, puisque nous terminons, il faut quand même que vous ayez une petite vue de synthèse, hein, petite vue de synthèse sur cette topic historique par rapport au problème de l'exister de Dieu. Comprendre donc, avant Saint Anselme, les pères. Hein. Nous avons été vite là-dessus aussi. Saint Anselme, par rapport aux pères, représente un effort tout à fait nouveau. Ça, il faut comprendre la nouveauté de saint Anselme. Un effort tout à fait nouveau pour essayer de comprendre la signification du nom Dieu. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est cette réflexion sur la signification en partant de la foi. Mais une réflexion sur la foi qui permet de comprendre qu'il y a la possibilité d'avoir une signification du nom de Dieu qui va pouvoir se séparer de la foi. Alors, vous voyez la pétition de principe, hein, puisque la foi implique un jugement d'existence, je cherche dans la foi la signification du nom de Dieu pour retrouver l'existence. Alors, elle est donnée au point de départ. Et c'est là la pétition de principe qui a suivi saint Anselme. Il n'y a pas de pétition de principe chez lui, puisqu'il parle de la foi, mais quand même, il veut isoler la signification de Dieu du mystère de la foi. Il le dit textuellement, donc on peut le dire. Et il veut donc, a priori, découvrir comment l'essai est impliqué, l'essai de Dieu, l'exister de Dieu, est impliqué dans la signification même du nom de Dieu. Je crois que c'est ça l'effort de saint Anselme. L'originalité de saint Anselme, c'est ça. Montrer aux novices tentés que s'il est intelligent, il doit dire Dieu existe. Et le psaume qui est repris tout le temps dans saint Anselme montre bien son intention. C'est qu'on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. C'est insensé de dire ça. Si vous pensez la signification de Dieu, quand vous employez le mot Dieu en disant Dieu n'existe pas, vous devez, si vous êtes intelligent, comprendre la signification de Dieu. C'est pas bête du tout à dominer, vous voyez. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas, demandez-lui tout simplement qu'est-ce que ça veut dire Dieu pour vous, puisque vous employez le mot. Ça, c'est la chose qui peut l'enlever pour lui. Saint Anselme l'a compris. C'est ce qu'il vous dira que c'est. Il ne saura plus. Qu'est-ce que c'est Dieu ? Vous dites que Dieu n'existe pas, mais qu'est-ce que c'est que Dieu pour vous ? Alors vous mettez X n'existe pas. N'est-ce pas ? Dieu n'existe pas, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que Dieu. Alors ça, saint Anselme m'a bien saisi. La tentation du petit novice. Il parle de Dieu, il ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, rends, essaie de comprendre ce que veut dire Dieu. Après, tu pourras dire s'il existe ou s'il n'existe pas. Et si tu penses vraiment Dieu, tu es obligé de dire qu'il existe. C'est vraiment ce que saint Anselme veut faire. Et ad hominem, c'est très bon. C'est très bon là, comme raisonnement ad hominem, vous voyez ? C'est très très bon. Vous employez le mot de Dieu, mais alors sachez ce que ça veut dire. Et réfléchissez sur ce que ça veut dire. Bon, alors il y a tout ce point de vue, signification du nom de Dieu. La mise en lumière de ça. Ce qui n'est pas du tout du côté des pères de l'Église. Ce qui est quelque chose de très nouveau. Signification du nom de Dieu. Et cela, il est obligé de le faire en face d'une vice qui était tentée. Saint Thomas, lui, laisse tomber complètement Saint Anselme. Cette mise entre parenthèses de Saint Anselme, c'est extraordinaire. Et avec Saint Anselme, la mise entre parenthèses aussi de toutes les voies classiques et traditionnelles de Saint Augustin. Toutes les voies d'intériorité. Alors, comprenons bien ça, parce que c'est ça qui scandalise la poésie, c'est ce qui scandalise les gens qui regardent Saint Thomas de l'extérieur. Toutes les voies de l'intériorité, saint Thomas les laisse tomber. Attention, il les laisse tomber. C'est-à-dire qu'il montre que toutes les voies d'intériorité ne peuvent pas aboutir à ce que saint Thomas cherche, la science. Et parce que saint Thomas est dans une recherche de théologie scientifique qui laisse tomber toutes les voies d'intériorité, parce que les voies d'intériorité sont subjectives et donc ne peuvent pas aboutir à une argumentation objective. Alors ça, évidemment, pour nous, hein, pour nous qui vivons dans notre siècle d'aujourd'hui, c'est gros. Et c'est pas commode à accepter. Ça, c'est sûr. C'est bien évident. Il faut sentir ça, il faut sentir. Parce qu'il ne faut pas sortir les preuves de saint Thomas comme ça. Ben, c'est pas la peine, ça ne sert à rien, ça met les gens à bout. N'est-ce pas ? C'est pas la peine de dire qu'on est thomiste. Pas la peine. Dites comme vous cherchez à être intelligent pour Dieu. Mais il faut le prouver après. Hein. Mais dites que vous cherchez d'être intelligent pour Dieu, c'est la seule chose. Et nous trouvons parmi tous les gens intelligents un saint Thomas. Et nous trouvons parmi les gens intelligents un saint Anselme. Et nous trouvons parmi les gens intelligents un saint Augustin. Ce sont tous des gens intelligents pour Dieu. Mais leur intelligence est différente, puisque pour nous, si nous sommes intelligents, l'intelligence est analogique. Donc elle a des formes différentes. Il y a une intelligence scientifique, saint Thomas. Il y a une intelligence réflexive, saint Anselme. Il y a une intelligence affective, saint Augustin. Et nous devons avoir les trois. Nous devons avoir les trois. Et nous savons que la forme d'intelligence d'aujourd'hui, c'est la forme réflexive. On n'aime pas l'objectivité, mais on aime la réflexivité. On est tous des tordus, et on est tous donc en face de l'intelligence réflexive, critique. On aime la critique aujourd'hui, que voulez-vous ? Dès que vous faites de la critique, immédiatement, c'est réflexif. Ça n'avance à rien, mais c'est quand même intelligent. C'est une intelligence réflexive. Alors vous faites un exercice indéfiniment le même, mais vous ne découvrez rien de nouveau, puisque vous n'avez aucune saisie de principe propre en critique. Vous avez uniquement le comment. Le comment du côté du conditionnement intellectuel. C'est réflexif. Or, on pourrait dire, vous voyez, que Saint Anselme est le grand-père ou l'arrière-grand-père de la critique. Attitude réflexive. Ça, c'est très vrai, l'attitude réflexive sur la foi. En montrant que on va essayer de saisir le noyau central de signification du nom de Dieu qui est impliqué dans la foi. C'est vraiment une attitude critique. C'est pour ça qu'il est à la côte. Saint Thomas, au contraire, c'est l'attitude objective de la science telle qu'Aristote en parle. Alors, c'est une objectivité telle que Saint Thomas laisse tomber l'attitude réflexive de Saint Anselme. Il considère que ça ne va pas du tout. Il critique Saint Anselme avec beaucoup de respect. Et Saint Augustin, il n'en parle pas dans ses voies d'accès. Et il saisit les cinq voies d'accès qui sont traditionnelles, qui reviennent au Père de l'Église, qui sont traditionnelles, mais qu'il les purifie en leur donnant justement leur acuité propre. Et je crois que c'est ça que nous devons essayer de comprendre dans l'effort de Saint Thomas, cet effort scientifique objectif des cinq voies. Et des cinq voies saisies à partir de la causalité. Une causalité au niveau métaphysique de l'être. C'est ça tout le souci de saint Thomas. C'est toute l'originalité de saint Thomas. Et là, c'est une originalité qui est très grande. parce que les pères de l'Église ne donnaient pas du tout la même synthèse au niveau proprement de l'être. Tandis que lui a compris que seul par l'essai, on pouvait remonter jusqu'à Dieu. Ça, c'est l'intuition de saint Thomas. Et là, Gilson a raison de dire ça. C'est l'intuition de saint Thomas. C'est vraiment l'intuition de saint Thomas. Gilson a saisi à sa manière. Ça fait partie de l'herméneutique de saint Thomas. On peut le saisir d'une autre manière, mais c'est vraiment le point de vue de l'essai. C'est la ligne conductrice. Vous voyez ? Tandis que pour saint Anselme, c'est la signification. C'est là où on voit tout de suite la différence. Saint Anselme, c'est la signification. Donc c'est de l'ordre de l'intelligibilité. C'est par l'intelligibilité que je vais remonter jusqu'à Dieu. Et saint Thomas dit non. C'est pas l'intelligibilité. C'est au contraire l'au-delà de l'intelligibilité. L'essai, l'ipsum esseri, ce que seul le jugement peut atteindre. Le jugement atteint dans la réalité qui est vivante son existé, et son existé est au-delà de toute intelligibilité. Donc je saisis Dieu par la transcendance de l'essai. N'est-ce pas ? Puisque saint Thomas dit, il ne faut pas jamais l'oublier, hein, l'ipsum esseri. C'est ce qu'on regarde le jugement. Alors on pourrait dire, vous voyez, que saint Anselme est du côté de l'appréhension. En gros, c'est reste vrai. Saint Anselme est du côté de l'appréhension et voudrait par l'appréhension rejoindre Dieu. Saint Thomas dit par l'appréhension impossible. Je ne peux pas rejoindre Dieu par l'intelligibilité, par le point de vue de l'intelligibilité. Je ne peux rejoindre Dieu qu'en saisissant l'ipsum esseri, donc le jugement. Le jugement d'existence. Je ne peux rejoindre Dieu que par l'ipsum esseri. L'ipsum esseri est au-delà de tout le domaine de l'intelligibilité, et puisque ça mesure là mon intelligence, l'ipsum esseri. Et c'est par la ligne, la crête de l'ipsum esseri que nous pouvons rejoindre l'existé de Dieu. Un existé appelle un autre existé. Si vous commencez par l'intelligibilité, vous ne sortirez pas de l'immanent. Et c'est pour ça que saint Thomas laisse tomber toutes les voies d'intériorité et saint Anselme pour reprendre quelque chose de beaucoup plus objectif. Mais l'objectivité de saint Thomas, pas l'objectivité des modernes. Hein. L'objectivité de saint Thomas, c'est l'ipsum esseri qui est mesure, qui est au-delà de toute intelligibilité. C'est par l'essai, les cinq voies commencent toujours par l'essai, les cinq modulations de l'essai, les cinq manières de saisir l'essai, l'ipsum esseri, pour essayer de découvrir les cinq crêtes, les cinq sommets par lesquels j'atteins Dieu, en se servant de la causalité. Immédiatement après, saint Thomas, je vous ai dit, il faudrait mettre hors cadre, toujours, hein, la charnière, hein, n'oubliez pas, la charnière hors cadre, n'est-ce pas ? La charnière, parce que c'est celui qui réduit la métaphysique à la logique. C'est pour ça qu'il est si moderne. Alors, quand il est très moderne, il réduit la métaphysique à la logique. Et quand on fait la réduction de la métaphysique à la logique, évidemment, on est dans une perspective tout autre que celle de saint Thomas. Mais Occam reste encore un théologien, tandis qu'avec Descartes, on va être en présence du premier moment de l'indépendance, de l'autonomie de la raison, de l'entendement. C'est la raison qui commence à reprendre ses droits. Et Descartes va, par toute sa philosophie du doute méthodique, essayer de découvrir la voie par où je peux rejoindre Dieu. C'est vraiment son effort. Rejoindre Dieu. Il va y avoir un lien entre Descartes et saint Anselme. Ça, c'est sûr. Pas tout de suite. Descartes va essayer de rejoindre Dieu par les idées. C'est la première manière dont il essaie de rejoindre Dieu, par les idées. Et en appliquant aux idées la causalité. Et c'est pour ça que Descartes dira à la suite de saint Thomas, en donnant au sens de la démonstration a posteriori une signification toute nouvelle, Parce que la démonstration a posteriori pour saint Thomas s'appuie sur l'ipsum esseri. Pour Descartes, la démonstration a posteriori s'appuie sur les idées. L'idée d'infini, l'idée de perfection, ça s'appuie sur les idées. Les idées sont créées, donc c'est bien des effets. Donc des deux côtés sont les effets. Mais ce n'est pas l'ipsum esseri, c'est l'idée. Quel est l'ipsum esseri de l'idée? C'est l'existence de l'intentionnalité. L'idée n'existe que dans mon intelligence. L'idée n'a pas d'exister en dehors de mon intelligence. L'idée n'est pas la mesure de ma connaissance. Elle est immanente à ma connaissance. Et à partir de l'idée créée comme effet, il va se servir du principe de causalité. Il faut bien que l'idée ait une cause, puisque l'idée est limitée et pourtant elle est infinie. Donc elle ne peut pas s'expliquer par mon intelligence humaine. Je parle de l'idée d'infini. Je vous ai dit, c'est très très important de comprendre le rôle de l'idée d'infini à partir de Descartes. C'est le leitmotiv que vous retrouverez jusque Feuerbach. Alors c'est quand même important de saisir ce leitmotiv et de voir comment il apparaît avec Descartes. C'est cette idée d'infini. Cette idée d'infini que pour Descartes je porte en moi. Cette idée d'infini, vous voyez, elle vient du lien qu'il y a toujours chez Descartes entre le point de vue mathématique et le point de vue philosophique. Chez Occam, la métaphysique devient logique. J'allais dire chez Descartes, métaphysique, philosophie première et mathématiques vont s'identifier d'une certaine manière. Le prototype de la pensée chez Descartes, c'est la pensée mathématique. C'est par là qu'il est séduit, et c'est pour ça qu'il ne revient pas au jugement d'existence. Qu'il part de l'idée, et de l'idée d'infini. Et cette idée d'infini, il va essayer de faire que cette idée d'infini nous permette de remonter jusqu'à Dieu, en se servant du principe, en se servant de la causalité. Mais de la causalité, non pas au niveau de l'essai, mais la causalité au niveau de l'intentionnalité. Là aussi, c'est très révolutionnaire. Hein, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. De penser le point de vue de la causalité, non plus au niveau de l'essai et au niveau du devenir. Vous savez bien ce qu'Aristote avait dit. Hein. Aristote distinguait l'arché, le principe de la cause, action, de cette manière. Que le principe, c'est ce qui est premier dans n'importe quel ordre. La cause, c'est ce qui est premier dans l'ordre de l'essai et dans l'ordre du devenir. Ça, c'est très net chez Aristote. La distinction entre principe et cause. La cause, donc, c'est ce qui est premier dans l'ordre de l'essai, dans l'ordre de l'être, de l'exister et dans l'ordre du devenir. Tandis que le principe, c'est ce qui est premier tout court. Qu'il s'agisse de l'ordre de l'être, qu'il s'agisse de l'ordre de l'intentionnalité, qu'il s'agisse de l'ordre de la pensée, ce qui est premier. Bon. Aristote distinguait donc nettement principe et cause. Chez Descartes, on va voir comment, de fait, la causalité va se ramener au principe. C'est très étonnant de voir ça. Parce que le principe de causalité va prendre chez Descartes une valeur toute nouvelle. Regardez le petit lexique de Gilson sur Descartes. Et Gilson a eu cette intuition très, très très belle, ça c'est une des choses très importantes de Gilson, c'est peut-être là où il est le meilleur, c'est qu'il a saisi que Descartes a choisi tous les mots de la scolastique en leur donnant une nouvelle signification. Oui, c'est la falsification de la monnaie. Quoi. Le mot a exactement les mêmes significations qu'avant. C'est exactement, là, Descartes emploie toute la scolastique, tous les mots de la scolastique. Mais il donne à tous ces mots une nouvelle signification. Or, vous savez bien, c'est toujours la question participation-causalité. participation-causalité, c'est-à-dire principe et cause. La participation relève du principe. La causalité relève de la cause, hein, comme il se doit. Eh bien, c'est la distinction entre participation et causalité qui est, je crois, un des partages les plus importants à saisir au point de vue de la pensée. C'est pas étonnant, puisqu'on recherche toujours le nécessaire. Alors on recherche le nécessaire à partir du principe, on recherche le nécessaire à partir de la cause. Et la distinction entre le domaine du premier dans l'ordre de l'intentionnalité ou du premier dans l'ordre de l'être et du devenir, c'est quand même une distinction capitale. On a mis du temps avant de le faire. Hein. Il a fallu Aristote faire face à Platon. Alors que chez Platon, les deux sont liés. Ça, c'est bien évident. C'est pour ça qu'on est dans l'ordre de la participation. Tandis que Aristote distingue les deux, eh bien, nous retrouvons la confusion chez Descartes. C'est-à-dire de considérer que la causalité va se comprendre comme tout simplement un principe. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe ? C'est distinguer ce qui est premier de ce qui est second, et distinguer l'ordre. Eh bien, c'est ce que fait exactement Descartes. Il réduit la causalité à un ordre, c'est-à-dire à un principe. Tout simplement de saisir ce qui est premier et second. Il saisit que l'idée est nécessairement seconde, puisque l'idée n'est dans un esprit limité. Et cette idée a une signification infinie. Nous retrouvons le problème de la signification. Le problème dans sa densité. Et cette idée a une signification infinie, donc elle ne peut pas provenir de mon esprit, elle appelle l'existence d'une réalité infinie qui explique cet infini. La signification va poser le problème de la réalité. C'est exactement ce que fait Saint-Anselme. Donc vous retrouvez la même structure de l'appréhension, la signification, parce que c'est le problème de la signification, l'appréhension. Vous retrouvez le même problème de la signification qui va nous permettre de poser à partir de la signification la réalité existante. Et ça, c'est, je crois, capital à comprendre. Hein. Parce qu'à partir de là, nous retrouvons, vous voyez, le problème de Saint-Anselme, vu autrement que Saint-Anselme, hein, tout à fait autrement. Mais il y a quelque chose de commun. C'est donc de saisir qu'il y a une démonstration a posteriori de Dieu, mais non pas à partir de l'ipsum esse rei comme Saint-Thomas, ou le père de l'Église, mais à partir de l'idée. Et on applique le troisième de la causalité. Ceci, c'est la première ébauche chez Descartes. La seconde ébauche, et on comprend très bien, c'est pas suffisant de dire qu'il y a une démonstration a posteriori de l'exister de Dieu, il faut montrer qu'il y a une démonstration a priori. Et montrer qu'il y a une démonstration a priori, vous voyez, c'est revenir au problème de la signification du nom de Dieu, mais d'une autre manière. Et alors, l'effort de Descartes, c'est à partir de dépasser cette démonstration a posteriori pour découvrir la démonstration a priori. C'est précisément cette relation de nécessité de l'existence à l'essence de Dieu qui, dans une seconde formalisation de l'argument a priori, constituera le seul ressort du raisonnement. Et je crois que c'est ça qui est au fond le désir dernier de Descartes, de montrer que nous avons une idée de Dieu qui réclame l'exister. Vous voyez, vous retrouvez la signification du nom de Dieu, a priori, exige l'exister. Donc nous sommes en face de la même intuition, exactement la même intuition que Saint-Anselme. Le contexte est tout à fait différent. Tout à fait différent, mais exactement la même intuition. Chez Saint-Anselme, il y avait une preuve a posteriori et une preuve a priori. Chez Descartes, nous retrouvons une preuve a posteriori et une preuve a priori. Alors, je vous lis simplement ce petit raisonnement, sans m'attarder de trop pour ne pas vous fatiguer. Ce que nous concevons clairement et distinctement. Donc, ce que nous concevons clairement et distinctement appartenir à la vraie et immuable nature ou essence ou forme de quelque réalité, cela peut être affirmé en vérité de cette réalité. Voilà la majeure. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est clair. Puisque c'est tout ce que nous concevons clairement et distinctement appartenir à la vraie et immuable nature. Concevons clairement et distinctement. Donc ce que nous concevons clairement et distinctement appartenir à la vraie et immuable nature ou essence ou forme de quelque réalité, cela peut être affirmé en vérité de cette réalité. Voilà la majeure. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est clair. Puisque c'est tout ce que nous concevons clairement et distinctement appartenir à la vraie et immuable nature ou essence ou forme de quelque réalité, cela peut être affirmé en vérité de cette réalité. Mais après que nous avons soigneusement recherché ce qu'est Dieu, nous concevons clairement et distinctement qu'il appartient à sa vraie et immuable nature qu'il existe. Donc, nous pouvons alors affirmer en vérité de Dieu qu'il existe. Ça ne peut pas être dit plus clairement, je crois, que ce point de vue-là. C'est d'une clarté absolue. Vous avez ça dans la première réponse, donc dans le livre 7, chapitre 7, n'est-ce pas, qui montre ce point de vue que si vous concevez clairement ce que c'est que Dieu, vous devez affirmer que Dieu existe. La seule difficulté de ce raisonnement, mais Descartes avoue qu'elle n'est pas petite, réside dans la mineure. C'est évident, ce raisonnement est très très clair, et la mineure, vous l'avez tous deviné, c'est la quoi ? Après que nous ayons assez soigneusement recherché ce qu'est Dieu, nous concevons clairement et distinctement qu'il appartient à sa vraie et immuable nature qu'il existe. Voilà la mineure. Un petit morceau, quoi. C'est rien du tout. Vous avez conçu clairement ce que c'était que Dieu. Ça, la signification du nom de Dieu. C'est exactement la même chose. Là, la parenté est immédiate. Nous retrouvons cet effort. Toutefois, Descartes estime que si l'on veut bien considérer attentivement la nature de l'être souverainement parfait, vous retrouverez bien Saint Anselme, on reconnaîtra que l'idée de Dieu ne contient pas l'existence seulement possible, mais l'existence nécessaire. C'est là un des postulats de son exposé géométrique. Je demande, c'est encore lui qui parle, je demande qu'il s'arrête longuement à contempler la nature de l'être souverainement parfait. Et entre autres choses, qu'il considère que dans les idées de toutes les autres natures, l'existence possible se trouve bien contenue, mais que dans l'idée de Dieu n'est pas contenue l'existence seulement possible, mais l'existence nécessaire. Car de cela seul, sans aucun discours, on connaîtra que Dieu existe. Et cela ne sera pas moins évident, per se notum, c'est Descartes, le per se notum des scolastiques, que le fait même que le nombre 2 est pair et que 3 est impair, car il y a des choses qui sont évidentes à certains, et que d'autres n'entendent que par un discours. Vous voyez, ça ne peut pas être plus net. Pour Descartes, étant donné l'intelligence de Descartes, les autres, c'est l'égoïme. Bon, alors les autres, ils ne comprennent pas, mais Descartes y comprend. Son intelligence est tellement pénétrante que dès qu'il pense Dieu, l'exister nécessaire est présent. Donc, nous sommes bien en face d'une démonstration a priori de l'existence de Dieu. penser l'idée de Dieu implique l'exister nécessaire. Alors, référez-vous à l'intelligence de Descartes, hein, pour comprendre. Parce que c'est vraiment l'intelligence de Descartes. C'est pas objectif. Hein. C'est à l'intérieur de l'intelligence de Descartes qu'il faut le comprendre. Comme lorsqu'il s'agissait de saint Anselme, c'était à l'intérieur de la foi. In sinu fidei, in sinu intellectus cartesi. Alors là, à ce moment-là, vous comprenez que c'est à l'intérieur de l'intelligence de Descartes, vous concevez que l'exister de Dieu implique nécessairement, je veux dire, l'idée de Dieu implique nécessairement l'exister nécessaire. Je crois que c'est très important de comprendre ça. C'est un très grand tournant, vous comprenez ? Parce qu'à partir de là, vous avez donc réhabilité saint Anselme. Vous l'avez réhabilité en entrant que la voie la plus absolue, c'est de pouvoir, par l'idée de Dieu, poser l'exister. Alors, vous comprenez la critique de Kant. La critique de Kant est directement face à Descartes. Jamais d'une idée, si parfaite qu'elle soit, je puis poser l'exister. Et Kant fait cette critique parce que Kant justement montre l'abîme qui existe entre l'appréhension et le jugement. Kant a très bien saisi ça. Il a très bien saisi qu'il y a en nous des formes a priori, l'appréhension. Comme il y a des idées innées. Et là, nous sommes devant un terrain absolument net et pur, limpide, qui est justement ce domaine de l'appréhension. Et puis, il y a le domaine du jugement, où je rejoins la réalité existante. Et en rejoignant la réalité existante, là, c'est l'expérience. Vous voyez ? Donc, il sépare le point de vue de l'appréhension et le point de vue du jugement. Ce que Descartes ne faisait plus. Pour Descartes, c'est l'appréhension qui commande tout. Vous voyez, c'est très curieux à ce point de vue-là. Et au point de vue philosophique, c'est intéressant au point de vue critique. Parce qu'on pourrait dire les philosophes de l'appréhension et les philosophes du jugement. Ce serait intéressant. Ce serait une des grandes manières, je crois, de regarder toute la critique. Les philosophes de l'appréhension et les philosophes du jugement. Les philosophes de l'appréhension qui ramènent tout à l'appréhension, alors ils conduisent tout aux formes a priori, ou au point de vue des idées innées. Et puis, les philosophes du jugement. Et au fond, l'équilibre de saint Thomas, c'est d'avoir mes appréhensions et jugements. Et c'est ça la plus grande difficulté que nous avons. C'est l'équilibre entre les deux. Alors, encore quelques mots, parce qu'il faut respecter les vieilles traditions. Hein. Les derniers cours, il faut faire des cours un peu plus courts. Hein, parce que c'est pour montrer qu'on a tout terminé, qu'on a tout le temps. Mais si on termine au moment où on tape, alors à ce moment-là, on dit « il n'a pas terminé, c'est ennuyeux ». On dit qu'au contraire, c'est pour vous laisser un peu de calme dans le cœur. Alors, comprenons bien qu'à partir de cette position de Descartes, une démonstration a priori de l'existence de Dieu, qui se fait selon un mode de nécessité. L'idée de Dieu implique nécessairement le point de vue de l'exister. À partir de cette position, c'est-à-dire à partir de l'appréhension qui prend tout, on peut dire qu'est née l'ontologie. Alors l'ontologie, bien évidemment, c'est Descartes, et puis c'est Malebranche. C'est Descartes et Malebranche, hein. C'est ça qui est très important à saisir. Mais on ne peut pas dire que Descartes n'est pas encore l'ontologie sans toute sa pureté. La position de l'ontologie, ce qui sera la position de Malebranche. Malebranche est un curé philosophe, hein. Faut pas l'oublier. Alors c'est quand même important. Descartes est un directeur de conscience philosophe. C'est autre chose. Mais il est plus laïque. Il y a des laïcs qui veulent faire de la direction spirituelle. Vous savez, ça les démange. N'est-ce pas ? Alors les laïcs qui font de la direction spirituelle, c'est Descartes. Et ils sont toujours un peu cartésiens. C'est curieux, ça. Ils sont pour la méthode. Hein. Parce que, oui, sa méthode remplace le Saint-Esprit. Bon, alors, ça fait des méthodes. Alors, on a des méthodes très, très nettes pour avoir des choses très, très, très poussées et très efficaces. Alors, Descartes n'est pas au fond tout à fait l'ontologiste, mais il va faire naître, à partir de lui, l'ontologiste va naître. Alors qu'est-ce que c'est que la position de l'ontologisme? Nous reverrons ça l'année prochaine. Il faut toujours dire ça. Hein. Nous reverrons ça l'année prochaine pour mettre un pont, n'est-ce pas, pour voir, en voyant les idéologies modernes. Parce que nous les verrons, ça c'est très important. Et nous les verrons à Rimont et non pas à Saint-Jodin. Mais comme il y aura une communication interne entre les deux, ça pourra se faire des deux côtés. Alors, l'ontologisme va donner naissance aux idéologies athées. Et tout cela provient donc dans Saint-Anselme, beau Saint-Anselme dans le ciel, et Descartes. Je crois qu'il faut reposer la filiation comme ça. Vous allez essayer de saisir quelques mots. Parce que c'est important de saisir les filiations quand on peut les saisir. Quand on peut les saisir, c'est très important. Alors on pourrait dire Saint-Anselme, on connaît un peu. Descartes, on peut le voir. Et puis Malebranche. Donc, trois positions, et avec Malebranche, on est en plein ontologisme. Alors, il faut bien voir ce que c'est que l'ontologisme et l'argument ontologique. Il ne faut pas confondre, c'est des mots qui... Et l'ontologie, en plus de ça. Vous voyez, ça, il y a de quoi perdre tout son latin. Hein, en fin d'année, ça va, parce que les examens sont passés. Alors, on peut les perdre après. Bon, alors, vous avez l'ontologisme de Malebranche. L'ontologisme de Malebranche consiste à dire que le fini ne se comprend qu'à partir de l'infini. L'ontologisme de Malebranche consiste à dire qu'on voit tout à partir de Dieu. Il a bien de la chance. Et vous voyez, il y a un parallélisme entre les deux, puisque pour Descartes, en définitive, hein, toutes les vérités sensibles sont garanties par Dieu. Donc Dieu est celui qui me garantit que ma sensibilité est vraie. J'ai posé Dieu comme celui qui m'a donné la garantie de mon intelligence. Et c'est celui que je pose à partir de l'idée d'infini. Donc, puisque c'est à partir de l'idée d'infini que je pose l'existence de Dieu, Dieu est immédiatement saisi. L'existence de Dieu est immédiatement saisie à partir de l'infini. Donc, on peut dire qu'il y a une espèce d'immanence de Dieu à partir de l'idée d'infini. Dieu est possédé par l'intelligence humaine. Et parce qu'il est possédé par l'intelligence humaine, Dieu peut devenir le garant de la vérité. Il y a une mainmise sur Dieu, par Descartes, ce qui est effrayant. Mais en fond, c'est quand même cela, il y a une mainmise. Je comprends très bien qu'à partir de là, le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu des chrétiens. Parce que c'est juste l'inverse. C'est par l'immanence que je saisis Dieu. Et je ramène la causalité à une immanence parce que c'est une causalité au niveau de l'intentionnalité. Chez Malebranche, chez l'ontologisme proprement dit, l'infini est posé comme premièrement connu. La première réalité que je connais, c'est Dieu. Et dans la lumière de Dieu, je me connais comme fille, c'est-à-dire comme créature. Donc, l'homme ne peut être connu que dans la lumière de Dieu. Si l'homme ne peut être connu que dans la lumière de Dieu, l'homme est entièrement relatif à Dieu. Si l'homme est entièrement relatif à Dieu, vous comprenez que l'homme n'est plus du tout saisi dans son autonomie. Puisque c'est à partir de Dieu que je connais l'homme. Alors je comprends la réaction violente des idéologies athées, libérer l'homme. Regardez l'homme en premier lieu. Et là, nous comprenons la réaction des idéologies athées. Et c'est ça, je crois, qui est très important à comprendre. Comment la position de Descartes donne naissance à la position de Malebranche, et comment cette position va donner naissance à une position diamétralement opposée. Il n'y a rien de plus opposé que les athéismes athées par rapport à l'ontologisme. Mais il y a quelque chose de commun, c'est que aussi bien les idéologies athées que l'ontologisme, qui naît de saint Anselme en passant par Descartes et en s'exprimant par Malebranche, il y a quelque chose de commun, c'est que les idées sont premières. Et vous comprenez donc que la chose la plus importante pour nous, c'est de sortir de ce primat des idées pour retrouver le primat du jugement d'existence. Je crois que vous avez une minute.